Bonjour à tous. Histoire d'en savoir plus sur Radio Grand-Ciel, au micro Elisabeth Couget. Dans ces émissions, les invités se succèdent mais ne se ressemblent pas, ainsi que les sujets abordés, et c'est encore le cas cette fois-ci. Je voudrais saluer avant toute chose mon invité d'aujourd'hui. Bonjour Emmanuel Boucheret.
Bonjour Elisabeth.
Bienvenue dans notre studio. Je vous remercie d'être venu pour partager avec les auditeurs de notre émission une page douloureuse de la vie de votre famille. Une page sombre qui ne concernait pas uniquement les vôtres, mais toute une communauté, car faisant partie de l'histoire d'une localité, l'histoire d'un pays et l'histoire tout court. Emmanuel, vous habitez dans les Yvelines, mais votre maman est chartraine, que j'ai eu le plaisir de recevoir dans une de nos émissions. L'histoire que vous allez nous raconter s'est passée à plusieurs centaines de kilomètres d'ici, il y a 100 ans. Il s'agit de l'histoire d'une partie de votre famille.
Voilà, exactement. C'est l'histoire de la partie belge de la famille de ma maman. Le père de ma maman était belge. Il venait d'une région qui est le Brabant flamand, d'un petit village qui s'appelle Arscot. Village qui a connu un massacre absolument épouvantable au tout début de la guerre de 14. Mmh. Moi, je connais bien Chartres, puisque j'ai eu toute ma carrière professionnelle ici, à Chartres. J'ai mon père, qui était un Beauceron pur et dur, de la région de Yèvre, Brou. Et bon, ben aujourd'hui, c'est sur votre invitation que je viens un peu parler de cette douloureuse page d'histoire de notre famille.
Voilà, on en parlera tout à l'heure. Nous vivons une période de commémoration. La Grande Guerre, comme on dit, a commencé il y a 100 ans. Par un fait divers, somme toute banal, on a assassiné à Sarajevo l'archiduc d'Autriche, l'héritier de l'Empire austro-hongrois, François Ferdinand, le 28 juin 1914. En attendant ces nouvelles, je suppose que votre arrière-grand-mère n'imaginait pas une seconde que sa vie allait basculer dans l'horreur. Sarajevo était si loin d'Arscot et la Belgique était un pays neutre.
Alors la Belgique était un pays neutre. Au tout début de ce qui préparait les hostilités, la Belgique a très fermement réaffirmé sa neutralité, mais a posté des troupes à toutes ses frontières pour éviter un éventuel débordement de l'Allemagne. Ça n'a pas loupé. L'Allemagne, dès le début du conflit, a brisé cette neutralité et rentré par sa frontière avec la Flandre, avec le pays flamand. Et dès les premiers jours du mois d'août 14, ça a été une invasion avec des massacres à peu près dans toutes les villes et villages où passaient les troupes allemandes. C'était l'incendie, le pillage et l'assassinat.
C'est bien de massacres dont nous allons parler, mais sans dévoiler votre âge, quoique les hommes sont moins frileux à ce propos, mais nous pouvons dire que vous faites partie de la troisième génération qui se sont succédés aux protagonistes de cette tragédie. Quelquefois, les enfants ne s'intéressent pas trop à ce qui s'est passé dans la famille auparavant. Ce n'est pas votre cas, il me semble.
Eh bien, on a été élevé avec quelques principes de respect déjà de nos anciens, et surtout dans le souvenir de leurs épreuves, des efforts qu'ils avaient pu assumer toute leur vie, et surtout de ces épreuves douloureuses, comme celle de la famille belge. Et je sais que, enfin, je me souviens quand j'étais petit, le soir avant de se coucher, ma maman nous faisait dire notre prière et nous faisait penser, à ma petite sœur et à moi, à ces martyrs qu'on avait eus, entre autres.
Dans la famille. Mmh. Avez-vous fait des recherches à ce sujet-là, ou bien vous êtes contenté de ce qui s'était raconté dans la famille ?
Alors, mon grand-père, c'est-à-dire le père de maman, Léon Nice, parlait peu de ces événements. Et lui avait échappé à ce massacre, mais dans la famille, on en parlait très peu. Ce qui fait que lorsque j'ai vu arriver le centenaire, c'est-à-dire 1914-2014, il y a 2 ou 3 ans, on a fait un voyage en Belgique de quelques heures pour voir si la commune d'Arscot, ce petit village, allaient préparer quelque chose. Est-ce qu'ils avaient l'intention de préparer quelque chose? Puisque moi, je voulais de toute manière marquer l'événement. Et le hasard a voulu que on fasse connaissance de l'historien du village, mais déjà, parallèlement, j'avais entamé des recherches, surtout grâce à Internet, des recherches qui m'avaient permis de retrouver, d'acquérir tout un ensemble de renseignements, d'archives, de journaux, de documents de l'époque, de documents qui concernaient ce village, qui concernaient ces deux jours tragiques sur ce village et concernaient aussi notre famille.
Du 19 au 20 août 1914,
voilà, 19 et 20 août, voilà.
Où 173 hommes ont perdu leur vie dans ce petit village.
Exactement.
Alors pour ces commémorations qui ont eu lieu il y a peu, vous êtes allé avec votre famille, Emmanuel, je suppose, et votre maman Raymonde.
Tout à fait.
Voilà, on détaillera ces célébrations certainement très émouvantes un peu plus tard dans notre émission. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Ça a été une émotion absolument très forte, un petit peu comme celle que j'ai là en vous parlant. On y est allé deux fois puisque les manifestations commémorant cet événement se sont étalées sur une quinzaine de jours au mois d'août. On y est d'abord allé le 9 août, une seule journée. C'était pour la présentation d'un livre.
On en parlera peut-être tout à l'heure.
Okay.
Parce que je pense que ça mérite plus de temps. Et bientôt nous allons à une pause musicale, je crois qu'on en parlera plus tôt. Okay. Donc j'imagine que c'était certainement très émouvant au cours de ces cérémonies de souvenirs, comme vous m'avez raconté lors de notre entretien préalable. Vous avez assisté à un concert qui était une véritable création pour cette occasion.
Oui.
Vous nous l'avez ramené, ce concert, enfin une partie. Et pour notre première pause musicale, nous en écouterons un court extrait. Venez d'entendre l'ensemble Scola et la voix merveilleuse des 60 jeunes femmes, toutes descendantes des victimes d'Arscott, qui le composent cet ensemble. Emmanuel Roucheret, vous êtes notre invité aujourd'hui pour relater cette tragédie familiale faisant partie de la grande histoire. Racontez-nous ce qui s'est passé au cours de cette funeste journée du 19 août 1914 à Arscott, environ à 40 km de Bruxelles, où vivait la famille de votre maman Raymonde. Qui était-il?
Alors, ces gens habitaient un petit village qui est à environ effectivement une quarantaine de kilomètres à l'est de Bruxelles, quand on se dirige vers la frontière hollandaise. Ces petits villages étaient un peu tous sur le même modèle, c'est-à-dire des villages très très ruraux, avec leurs brasseries, avec les métiers qu'on rencontrait à l'époque, c'est-à-dire les charpentiers, les menuisiers, les marchands de tissus. Un village qui comptait environ 5-6 000 âmes, c'était déjà quand même une bonne petite ville. Oui. Et ces gens-là avaient donc une vie à l'écart du conflit, enfin, pensaient-ils.
Ils étaient à l'abri.
Ils se pensaient à l'abri, d'autant que la communication n'était pas comme celle d'aujourd'hui. Mm-hmm. Les nouvelles, on ne les avait pas au bout de 15 secondes. Ces gens-là avaient donc appris qu'un conflit était sur le point de ravager le pays depuis une quinzaine de jours.
Oui, parce que en fait, la Belgique était neutre. Oui. Et l'ultimatum de l'Allemagne qui est arrivé le 3 août 1914 leur a laissé 12 heures de réflexion. En fait, les Belges avaient le choix, obéir et perdre leur honneur, ou résister et refuser de laisser passer l'armée allemande qui cherchait le chemin le plus court et le plus direct pour envahir la France. Eh bien, ils n'ont pas hésité, et je crois qu'il ne faut pas oublier ce qu'on doit aux Belges. Et ainsi, la guerre était là pour eux aussi, entraînant des milliers de victimes, dont ceux de votre famille, la famille Nice. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, alors ?
Alors, ce qui s'est passé, depuis quelques heures avant ce 19 août, ils entendaient le bruit des bombardements, puisqu'il y avait quand même une centaine de kilomètres depuis la frontière allemande jusqu'à ce petit village d'Arscott. Et les Allemands bombardaient absolument tous les villages, toutes les villes qui étaient sur leur chemin. Ça a été le cas pour Charleroi, ça a été le cas pour énormément de petites villes. Et les garnisons belges ont cédé sous la pression, puisque, évidemment, les Allemands arrivaient dans un nombre absolument considérable. Mm-hmm. Les villageois s'attendaient à ce que le village soit pris, puisque déjà d'autres villages venaient d'être pris la veille et l'avant-veille. Le maire du village, le bourgmestre, Monsieur Tillmans, qui était le brasseur de ce village, était sans doute le meilleur ami de mon arrière-grand-père, de Jacques Nice. Ces deux hommes-là ont discuté. Et mon arrière-grand-père avait dit à Monsieur Tillmans, « Écoute, on va sans doute partir, on se prépare avec mon épouse et les enfants à partir. » Et à ce moment-là, Joseph Tillmans lui a dit « Mais non, tu ne vas pas me laisser tout seul. Moi, je vais donner les clés aux Allemands. On va faire ville ouverte. Il paraît qu'ils ne sont pas si méchants que ça, qu'à partir du moment où on les laisse rentrer, ils ne se montrent pas forcément méchants avec la population. » Et mon arrière-grand-père s'est laissé convaincre. Il a convaincu aussi mon arrière-grand-mère et tout le monde est resté au village. Et le 19 août au matin, vers 5 heures, des milliers de Uhlans, c'était des troupes de choc un petit peu allemandes, c'était des lanciers très très bien armés, ont commencé à rentrer dans le village. Ils ont investi le village, ils se sont installés, ils ont mis les gens dehors de toutes les maisons, ils ont fait un grand tri, c'est-à-dire qu'ils ont mis tout le monde sur la grande place, ils ont trié les hommes d'un côté et les femmes et les enfants de l'autre, et ils les ont laissés là, en attendant de savoir un petit peu ce qu'ils allaient en faire. Et arrivaient des troupes. Les troupes belges étaient parties depuis la veille, puisque, évidemment, ils savaient que de toute manière, ils craqueraient. Le nombre était beaucoup trop important en face d'eux. L'attente a duré toute la journée, et aussi une bonne partie de la nuit. Tard le soir, le 19 au soir, les Allemands ont pris 600 hommes. Ils les ont alignés le long de la petite rivière qui traverse le village. Cette rivière, c'est le Demer. Ils les ont alignés, ils ont fait une décimation. Ils en ont pris 1 sur 3, c'est-à-dire 1, 2, 3, toi le troisième, tu vas être fusillé. 1, 2, 3, toi le troisième, etc. Le malheur a voulu que dans ce premier groupe, il y ait mon arrière-grand-père et l'un de ses fils qui était là, qui lui n'aurait pas dû être compté dans la décimation, puisque la décimation avait désigné un monsieur plus âgé, un monsieur d'une soixantaine d'années à côté. Et l'Allemand qui faisait cette décimation a dit « Non, non, moi je prends pas le vieux, je prends le jeune. » Et cette vieille personne lui a dit « Mais attendez, ce jeune a toute sa vie devant lui. » Et l'Allemand lui a répondu « Oui, mais il peut faire un soldat. Donc c'est toi qui vas être fusillé. » Et ils en ont déjà fusillé ce soir-là. Ils en ont fusillé, disons, environ 60. Mais personne l'a su qu'ils les avaient fusillés. Ils les ont emmenés à l'écart du village. Ils les ont fusillés. Pendant ce temps-là, les femmes, les enfants, les personnes très âgées ont été expulsées du village. Les gens sont partis sans rien. Ils avaient leurs vêtements sur eux, ils n'avaient aucune nourriture, ils n'avaient rien. Les Allemands avaient tout pillé. Les Allemands, depuis les fenêtres des maisons, leur jetaient des boîtes à conserve, etc. Enfin, tout ce qui était vide. Et le seul aliment qu'ils avaient consommé dans la journée, c'était un peu d'eau à la fontaine du village qu'ils allaient chercher dans les boîtes à conserve que leur jetaient à la tête les Allemands. Voilà, c'était comme ça que ça s'est passé.
C'était épouvantable tout ça. Hein.
Voilà.
Et les autres hommes, ils étaient où? Puisque bon, ça faisait malheureusement.
Alors, ils les ont contenus toujours à côté du Démer. Et le lendemain, eh ben, ils ont fusillé les suivants, c'est-à-dire les 110 autres
dont otages. Deux autres oncles.
Voilà, dont deux autres enfants de mes arrière-grands-parents. C'est-à-dire qu'en fait, on a perdu mon arrière-grand-père et trois de ses fils.
Ils avaient huit enfants, il me semble, c'est ça ?
Alors, ils avaient huit enfants. Ils avaient trois filles et cinq garçons. Le quatrième garçon, qui était en fait l'aîné, c'était mon grand-père, qui
Léon,
lui a échappé à ce massacre.
Le papa Léon, de Raymond.
Voilà, le père de ma maman. Il a échappé à ce massacre tout simplement parce que lui était militaire déjà, à quelques kilomètres de là. Et donc il n'a pas été pris comme otage, il était militaire dans l'armée belge.
On peut dire que la guerre l'a sauvé.
La guerre l'a sauvé, exactement. Et l'autre garçon qui a survécu, c'est son plus jeune frère qui avait 14 ans. Et qu'un Allemand a sorti du rang en disant « Toi, t'es trop jeune pour mourir, j'ai un fils qui a ton âge. »
Et votre arrière-grand-mère, avec le reste de ses enfants, s'est enfuie.
Alors, elle s'est enfuie avec...
Parce que la ville a été entièrement détruite.
Ils ont tout brûlé.
Donc, ils n'avaient plus le temps d'y être, malheureusement, et plus la possibilité.
Non.
Elles sont parties en Hollande.
Alors, elles sont parties, ça a été tout un exode.
La guerre s'est terminée en Hollande. Malheureusement, on ne peut pas raconter tout en détail. J'aurais voulu juste dire une petite note d'espoir dans toute cette noirceur. C'est l'histoire de Léon, je parle, de votre grand-père, sans qui vous ne seriez pas là. Grâce à la guerre, il a survécu. Il s'est retrouvé en France, malade,
alors,
soigné.
Il s'est retrouvé en France
en Normandie.
Au bout de tout un périple, on va faire vite. il a été gazé à Ypres, c'est-à-dire l'utilisation des premiers gaz, le gaz qu'on appelle hypérite, à cause d'Ypres d'ailleurs. Les Allemands ont utilisé ce gaz-là. Mon grand-père a été brûlé par ce gaz. Il a été ramené aux arrières et ensuite ramené à Londres. À Londres, où il y avait tous les hôpitaux belges. Ensuite, il a été ramené en France, puisque le gouvernement belge avait investi la ville de Sainte-Adresse, à côté du Havre, avait fui Bruxelles. Bruxelles était pris par les Allemands. Et c'est à Sainte-Adresse, où mon grand-père était en garnison, qu'il a connu ma grand-mère. Ma grand-mère, qui était lisseuse sur les métiers des gobelins. Elle travaillait en vitrine dans son atelier. Et mon grand-père est tombé amoureux d'elle en la voyant travailler au travers de cette vitrine.
Voilà une jolie note.
En Normandie.
Jolie note d'espoir, n'est-ce pas? Et maintenant, on écoute encore un peu l'ensemble Scala. Dans notre émission Histoire d'en savoir plus sur Radio Grand Ciel, notre invité Emmanuel Roucheret nous raconte aujourd'hui comment 4 membres de sa famille étaient exécutés par les Allemands dans la nuit de 19 au 20 août 1914 à Aarschot, en Belgique, à peine 40 km de Bruxelles. 100 ans se sont passés depuis. Est-ce que l'on peut oublier ça? Je veux dire, faut-il oublier, occulter ou s'en souvenir?
Je crois que les manifestations, les commémorations auxquelles on a assisté au mois d'août nous ont montré, enfin à nous qui étions quand même distants, on était à 350 km d'eux, nous ont montré qu'il y avait une présence du souvenir au quotidien dans ces villages et dans ces villes. C'était absolument ahurissant. Les maisons portent encore des marques, les bâtiments qui ont été reconstruits ont souvent encore la photo du bâtiment qui les précédait, le bâtiment qui a été incendié, les gens qui ont été massacrés. On a encore leur nom, il y a beaucoup de monuments. Et il y a eu toutes ces commémorations avec des œuvres d'art, avec des spectacles, avec des créations artistiques, des livres, je vous en ai amené un,
oui.
Des livres qui ont été consacrés à ce souvenir. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est justement cette présence de ces aïeux massacrés, cette présence au quotidien. Moi, quand je me suis retrouvé là-bas, déjà, on s'est retrouvé, en fait, avec des familles qu'on a retrouvées, des éléments de famille qu'on a retrouvés au travers les mariages, etc. On avait un peu tous notre arbre généalogique dans la poche, et on s'est retrouvé avec des branches communes, avec des cousins que là, on a redécouvert.
Finalement, cette commémoration vous a permis de retrouver des parties de votre famille
oui,
que vous ne connaissez. Alors, vous ne connaissiez pas, les commémorations sont déroulées, comme vous disiez, durant plusieurs jours. Ça a démarré par quoi, finalement? Première chose était...
Alors, le premier événement, ça a été la présentation d'un livre qui recense l'ensemble des documents que les familles qui ont subi les plus de dommages ont apporté à un historien, l'historien du village, André Delserte.
Delserte, qui a écrit ça.
Qui a sorti un livre qui fait 250 pages, bourré de photos, bourré de documents, qu'on lui a confié, c'est-à-dire que notre famille lui en a confié, mais toutes les familles qui avaient des victimes lui ont confié des photos, des journaux, des lettres.
Alors je sais que ce livre que j'ai eu en main est magnifique, malheureusement il est en flamand, donc j'espère bien que la traduction se fera en français et qu'on pourra tous en profiter et de revoir cet endroit-là. Après, vous avez assisté à une pièce de théâtre intitulée, la pièce s'appelait « Nuit de sang », racontant certainement cette nuit.
C'est,
19 au 20.
Tout à fait. Elle raconte surtout la tragédie de la famille du bourgmestre, donc cet ami de mon arrière-grand-père. Ce bourgmestre a été fusillé avec son fils, il a été fusillé avec son frère, tout simplement parce que les Allemands ont accusé ce fils, ce jeune fils, d'avoir tué un général allemand, alors qu'en fait, après la guerre, une autopsie et une enquête a révélé que c'était des Allemands, des soldats allemands, ivres, qui avait tiré sur le général.
En tirant dans tous les sens.
Et ça a été, en fait, l'objet du massacre. Ça a été le prétexte au massacre.
Mais je crois qu'il suffisait, n'importe quoi.
Il fallait une cause.
Alors, il y avait un concert de l'ensemble Scala dont nous venons d'entendre déjà deux extraits. Donc, il s'agit des 60 jeunes filles qui sont des descendants de ces victimes.
Voilà, exactement.
Aux voix magnifiques que vous appréciez très certainement.
Tout à fait.
Et puis, il y avait eu l'inauguration de la statue du colonel Gilson. Oui. Alors, qui était Gilson?
Gilson, c'était le commandant des... Le capitaine. C'était exactement le capitaine Gilson, qui ensuite a fait carrière dans l'armée belge. Ce capitaine commandait les forces belges stationnées à Aarschot juste avant le conflit. Il faut se dire que ma famille tenait l'auberge principale sur la Grand Place et que cette auberge contenait, à la veille de l'arrivée des Allemands, 150 officiers et leurs chevaux commandés par ce capitaine. Le capitaine Gilson a été blessé et c'est une de mes tantes, une de mes grand-tantes, qui l'a soigné. Bien. Et cet homme a eu sa statue d'inaugurer au mois d'août dernier, après qu'on ait vu cette pièce dont vous parliez à l'instant, une pièce de Cohen Wiebens,
Nuit de sang.
Qui racontait la tragédie de cette famille.
Aarschot.
Voilà, de cette famille immense.
Alors, il y a eu une marche silencieuse qui doit être extrêmement dans ce silence très, très émouvant, puisque vous êtes allé aux deux endroits où les hommes étaient groupés et massacrés à leur tour. Il y a eu aussi l'exposition au musée d'Art Scott. Oui. Ça, je crois qu'il faut que vous en parliez, puisque il y a 173 personnes ont été tuées, donc il y a autant de...
Il y a autant d'œuvres d'art qui ont été réalisées par des plasticiens, des graphistes, des sculpteurs, des peintres, bien sûr, mais autant de créations d'une inventivité absolument incroyable.
Ça, il faut aller voir, puisque je pense qu'il faudrait peut-être se dire, c'est votre cousin, finalement, l'arrière-petit-fils.
Oui, l'un des nombreux petits-cousins qu'on a reconnus là-bas, qui, lui, a réalisé une œuvre... consacré à nos malheureux disparus. Et cette œuvre est l'une parmi tant d'autres, mais c'était magnifique.
Je voulais encore vous dire quelque chose, parce qu'on pourrait imaginer pourquoi Art Scott. En fait, Emmanuel m'a raconté, et malheureusement on n'a plus le temps de raconter ça en détail, mais qu'en fait, dans les archives que les Allemands ont laissées, que les Russes, une fois à la guerre, ont amené à Moscou, et qu'après le perestroïka, c'est revenu, eh bien, on a découvert qu'en fait, il y avait bien des projets, et même les maisons étaient marquées sur les plans des Allemandes. Donc, ça a été préparé. C'est assez, assez horrible, mais que dire de plus? Se souvenir, bien sûr.
Oui,
ne pas oublier.
Tout à fait.
Et surtout espérer que plus jamais de pareilles horreurs ne se produisent.
On a eu... Pardon.
Ah non, mais merci Emmanuel, j'allais vous dire merci beaucoup, parce que si on veut encore écouter un petit peu les jeunes, on n'aura plus beaucoup de... Vous disiez encore...
Non, je disais simplement que le sentiment très fort qu'on a eu là-bas, c'est que le sang de ces martyrs coulait dans nos veines.
Et ne s'est jamais séché finalement.
Non, non.
Ah oui. Voilà, merci Emmanuel encore de nous avoir accordé cet entretien, d'avoir partagé avec nous cette page bien triste du livre de famille, de votre famille. Et merci aux auditeurs de nous avoir accordé leur attention. À bientôt pour une prochaine histoire d'en savoir plus sur les ondes de Radio Grand Ciel, bien sûr.
Merci.